Oui, alors nous sommes de retour avec Maître Jean-François Gay, c'est la chronique Prendre la route. Alors comme dirait l'autre, c'est à vous de jouer maintenant. Si vous avez des questions pour Jean-François, n'hésitez pas à nous téléphoner. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont en ligne. Alors monsieur Gay, rien à rajouter de spécial sur ce qui a été dit avant la pause.
Non.
Donc on va aller au téléphone immédiatement. Alors nous allons parler d'abord est-ce que c'est monsieur Robert?
Eh oui.
Monsieur Robert, on vous écoute.
Oui. Merci de nous écouter, vous aussi.
Ben, ça me fait plaisir.
Alors, moi, j'ai eu des motos pendant 30 ans de temps. Puis que je suis pas trop jeune. J'ai commencé avec... parce qu'on parlait tantôt là, de cylindrée de moto, des 200, 250 cc. j'ai commencé avec un 350. Je suis monté avec un... C'est un CB350. Après ça, c'était un Honda Shadow 500. Quand tu es seul sur la moto, si tu peux faire de la route, c'est parfait. Mais moi, l'idéal, là, c'était un 750. Au point de vue du poids, de la manœuvrabilité, là.
Oui.
Ça aussi, j'ai eu un Magna 750 de Honda. Puis après ça, un Suzuki Intro 2. Qui était
okay.
Un peu moins hey. Dispendieux, là, mais qui était quand même low profile, là, un peu comme un Harley. J'ai fait mes belles années avec ça.
Oui. Alors, est-ce que vous avez une question pour Jean-François ou?
C'était un petit commentaire. C'était peut-être juste pour. Les 200 cc, là, je ne sais pas. Moi, j'irais sur des motocross là-dessus, là.
Non, ben c'est parce que ça, il y a eu beaucoup de changements au cours des dernières années, hein, monsieur. C'est un peu des motos, je vous dirais, c'est un peu comme un peu des voitures, hein. Il fait une époque où on avait des V8, des V6. Là, maintenant, il y a de plus en plus de 4 cylindres, des 4 cylindres turbo. Au niveau des motos, ben aussi les motorisations, les moteurs ont fait des progrès. Ah. Et je vous dirais, moi, c'est sûr que si vous prenez une 200cc ou une 125cc ou... il y a beaucoup de 400cc aussi sur le marché actuellement. Parce que si on regarde la loi, là, le coût des plaques là, va augmenter à partir de 401cc et plus. Ça veut dire que les manufacturiers se sont ajustés à ça, parce que c'est pas juste au Québec. Là. Fait que il y a beaucoup de 400cc et moins. Et puis, je vous dirais, moi, pour un passager, là, une personne, le conducteur, un pilote, 400cc, c'est suffisant. Peut-être qu'à deux... mais il y a de moins en moins de motos, monsieur, aussi, qui sont conçues pour deux personnes.
J'ai déjà parlé avec un type. Lui, il s'était acheté un motocross, mais une motocross qui pouvait... Il avait des flashers et tout, là, il pouvait aller sur la route. Il coûtait moins cher, lui, d'immatriculation, finalement.
Ben, c'est parce que souvent...
C'est
les...
combien de ceci, je ne me rappelle plus.
Oui, mais c'est ça. Mais les motocross ou les modèles enduro, souvent, là, la cylindrée des moteurs, le nombre de cc, là, de centimètres cubes, si vous préférez, ils sont moindres que les motos de route. Là.
Ouais.
Okay. Il y en a moins, donc ça coûte automatiquement moins de plaque.
C'est ça.
Ouais. Mais c'est sûr que ce genre de moto-là aussi, là, c'est pas l'idéal pour faire de la route, etc., etc. Malgré qu'aujourd'hui, il y a des modèles, des motos aventure qu'on appelle, qui sont un mélange là intelligent, si on veut, entre les motocross et les motos, les routières qu'on appelle. Donc, vous avez du confort, vous avez de la sécurité, vous avez de la tenue de route, etc., etc. Parce que, puis aussi le silence de roulement. Parce qu'on s'entend qu'un motocross, là, c'est le fun de se promener avec ça, mais ça dérange pas mal le voisinage là, quand les gens se promènent avec ça. Là.
Parfait, monsieur. Alors, merci beaucoup d'avoir téléphoné. Là-dessus, Jean-François, il y a Nicolas qui m'a écrit dans les motos aventure, il me parle de la Ténéré, je ne sais pas si je lis bien, là, de Yamaha. Selon lui, c'est une moto très intéressante, mais pas toujours disponible, enfin, très rare par les temps qui courent.
Ben ça, je ne le sais pas, mais je vous dirais que dans ce segment-là, il y a la Honda Africa Twin. Cette année, là, pour 2021, là, pour vous donner une petite idée, vous avez la nouvelle Ducati, la 950S. Une Ducati V4, il y a Harley Davidson, comme on parlait tantôt, il y a la nouvelle Kawasaki 2022, là, la KLR 650 Adventure, et du côté de KTM, vous avez la 890, puis du côté de Triumph, un nouveau modèle aussi, la Tiger 850 Sport. Donc, beaucoup de nouveautés dans ce créneau-là, Jacques.
Parfait, il y a M. Adam qui m'écrit, pour vous demander à M. Gay, Quelle voiture peut-il conseiller pour quelqu'un de 1,80 m et 105 kg? J'ai actuellement une Elantra. Considère qu'elle est très inconfortable pour son dos. Faut dire qu'il travaille 8 heures par jour dans sa voiture. Il est livreur. Alors, vite de même, là, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller, là?
Ben, s'il veut rester dans les petites voitures, là, on parlait tantôt de la Honda Civic. Moi, conseil que je pourrais lui donner, c'est d'aller voir la Honda Civic si c'est plus facile pour lui d'embarquer puis débarquer. Parce qu'un mètre 80, on s'entend, c'est quoi? C'est un petit peu moins que 6 pieds, ça?
À peu près, oui. À peu près 6 pieds. Oui,
à 6 pieds, une Honda Civic, moi, je vous dirais, c'est une Toyota Corolla aussi. Les portières sont quand même grandes. Ou encore, la Subaru Impreza, que ce soit la berline ou le modèle à haillons. Mmh. Les portières sont grandes, puis il va peut-être avoir plus de facilité d'embarquer et débarquer de ce véhicule-là qu'une Hyundai.
Parfait. Retournons au téléphone. Nous allons parler. Est-ce que c'est M. Mario? Oui, Mario, je crois. Non? Allô?
Marc,
excusez-moi. Marc?
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Moi, c'est pour un renseignement. J'ai un Buick Enclave 2010. Puis j'ai tout comme les pneus d'origine là-dessus, autant d'été que d'hiver. Puis, tu sais, il va avoir 11 ans, là. Pensez-vous que je devrais changer mon véhicule ou bien que je suis mieux comme d'investir dans des pneus, puis comme des grosses réparations, changer l'huile de transmission, changer l'huile de radiateur, l'antigel du radiateur, tu sais?
Vous avez combien de kilométrage, monsieur?
Ah, j'ai 55 000 kilomètres.
Bon, vous faites pas beaucoup de millage par année de kilométrage. À peine 5-6 000 kilomètres par année.
Exact.
Ben moi, je vous dirais, si vous êtes satisfait du véhicule, ben pourquoi dépenser et acheter un nouveau? L'idée que vous avez là, d'entretenir le véhicule, faire une bonne inspection mécanique, de remettre tout ça là, à jour, mettre ça à niveau, je pense que ça vaudrait la peine.
Ah oui. Ah ben, Colin, c'est...
Parce que changer pourquoi s'il va bien et s'ils n'avaient pas de problème?
Ouais, parce que c'est surtout, tu sais, comme les pneus, après 10 ans, il faut changer les pneus.
En théorie, oui. Parce que pour les gens qui nous écoutent, là, vous allez poser bientôt vos pneus, des pneus d'été.
Oui.
Il y a une date là, sur les pneus. On peut retracer ça. Vous allez retrouver les mots, les lettres DOT, D-O-T.
Okay.
Puis après ça, vous allez avoir des chiffres. Ça va vous donner l'année de fabrication puis la semaine de fabrication. Donc, si, admettons, c'est écrit 22, je sais pas, 10, ben ça veut dire que le pneu a été fabriqué dans la 22e semaine de 2010.
Okay.
Fait que là, c'est sûr que vous pouvez encore rouler avec. Mais en théorie, le caoutchouc puis tout ça, avec le temps, là, le caoutchouc perd de ses propriétés, puis c'est un pneu qui pourrait être plus sujet à avoir une crevaison ou à éclater. Mais vous faites pas de haute vitesse, vous?
Non.
Faites de la ville surtout, j'imagine, à 5-6 000 km par année.
Exactement. Wow.
Écoutez, vous pouvez toujours demander l'avis là, d'un garagiste, là, celui qui va installer vos pneus. Mais moi, je vous dirais, si vous faites de la ville seulement, ces pneus-là, après moi, vous pourriez peut-être encore rouler un petit peu encore avec, mais faites-les vérifier.
OK, puis comme, tu sais, changer l'huile à la transmission, puis... tu sais, la gros tune-up, là, si vous voulez.
Ouais. C'est sûr que ça va vous coûter peut-être cher sur le coup. Tu sais, faire tous ces changements-là, ces vérifications-là, cette mise au point-là, si vous préférez, c'est plus le terme exact. Mais en bout de ligne, ça va vous coûter moins cher que d'aller acheter un nouveau Buick Enclave. Là, vous allez dépenser facilement là, de 50, 60 000 $ là.
OK. Puis les nouveaux, là, les petits Buick, ça, c'est-tu des casseaux de patates frites, ça, ou quoi?
Non, je vous dirais le Buick encore. Le Buick encore GX, qui est un petit peu plus long, donc l'empattement est meilleur, ça fait une meilleure, un petit peu plus confortable. Là. Ça va quand même bien. Au niveau de la sonorisation, Buick, là, c'est des véhicules là qui sont confortables, qui sont silencieux. Un peu dans le même style que Lexus. Un petit peu moins silencieux que Lexus, mais pas très loin.
Puis le Trailblazer, lui, vous en
pensez quoi? Trailblazer, moi, j'ai bien aimé. C'est sûr que c'est un moteur seulement 3 cylindres. Par contre, étant donné que vous, là, vous faites surtout de la ville, ben peut-être ça pourrait être un bon véhicule pour vous, là. C'est un véhicule qui consomme peu de carburant. Puis si vous roulez toujours en ville, pas besoin d'avoir un moteur extrêmement puissant, là.
Parfait, monsieur. Alors, merci d'avoir appelé. J'accélère un peu le processus parce qu'il reste pas grand temps, malheureusement, mais j'espère que Jean-François, et j'en suis convaincu, il a répondu à plusieurs de vos questions. Nous allons parler à monsieur Pierre, je crois.
Merci, M. Fabi. Oui. Moi, là, c'est au sujet des transmissions CVT. Là, on me dit là que ces transmissions-là, c'est du très bas de gamme. Nissan, là, la courroie, quand elle pète, c'est pas réparable. T'es obligé d'acheter des transmissions neuves. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les transmissions CVT? Moi, mon mécanicien me dit, c'est la dernière affaire que je vais acheter. Du CVT, là, c'est bon marché, c'est économique sur l'essence, mais c'est de la scrap comparé à de l'engrenage. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ben, qu'est-ce que je pense? Écoutez, monsieur, faut être réaliste, là. La plupart des manufacturiers, là, pour les véhicules d'entrée de gamme, si on veut, les véhicules bon marché, là, c'est des transmissions CVT. Fait que si vous voulez éviter ça absolument, vous allez être obligé d'acheter des véhicules plus chers, véhicules allemands notamment, ou encore, je pense à Mazda. Mazda, c'est un des rares manufacturiers encore qui offre des transmissions automatiques là, conventionnelles, là. Si on regarde la Mazda 3, le CX-3, le CX-30. Mais outre ça, écoutez, c'est sûr que ça n'a pas le rendement d'une boîte automatique, mais l'avantage de cette boîte-là, c'est que ça économise du carburant.
Mais c'est fabriqué bon marché, mais ça t'offre 5 ans, 150 000 km, mais ça se rouvre pas, puis c'est pas réparable, tu peux pas remplacer la courroie. Mais mon mécanicien me dit, tu peux pas avoir les pièces, c'est facile à réparer, mais tu peux pas avoir les pièces, tu peux pas, t'es obligé d'acheter une transmission neuve.
Ouais. Rapidement, peut-être une petite réponse, monsieur Maître
Guy. Écoutez, ça serait à vérifier. Peut-être aller voir un autre mécanicien, monsieur, si peut-être, je sais pas. Ouais. Écoutez, c'est du cas par cas, là.
Ouais. Exactement. On pourra y revenir éventuellement. Ben, Jean-François, merci de ta collaboration. On se reparle la semaine prochaine. Merci bien.
Bonne semaine.
Salut, bye.